L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Le 2 décembre 2023 a eu lieu notre 5e Gazette Africa au Gazette Café de Montpellier. C'est une table ronde animée par Jérémy Ziri, entrepreneur, Séraphine Ouédraogo, esthéticienne dans l'entreprise Acadie qui tient la boutique Grain de Fille à Castelnau, Odile Corneille, présidente de Mosaïque Outre-mer et chargée d'entreprise dans l'accompagnement, et Dominique Lamplat, responsable RH qui a 25 ans d'expérience dans l'accomplissement d'entreprises, insertion par activité économique, entrepreneuriat. C'est un événement Radio FM+, en coordination avec Marie-Claude Sia-Kézac, animatrice de l'émission L'Afrique dans tous ses états sur FM+. Et donc, vous allez assister aux débats très nourris qui ont suivi la table ronde. Bonne écoute.
Pour moi, le premier frein, c'est être femme. C'est tout simple. C'est parce que vous êtes femme à la base qu'il y a des freins. Parce qu'il faut être femme, épouse et surtout mère. Donc je pense que cette problématique, elle est là. En général, la femme qui entreprend, elle a cette difficulté. Il faut qu'elle gère le foyer et les enfants. Donc voilà. Mais au-delà de ces difficultés-là, ça reste la vie. Et quand on a un objectif, quel que soit le chemin, si c'est ce qu'on veut faire, on l'atteint. Quel que soit le temps aussi. Parce qu'on parle des jeunes femmes, mais on ne parle pas des femmes qui ont passé... au Pôle emploi, on est considéré vieux et vieille à partir de 45 ans. On est senior. Donc du coup, est-ce qu'il y a un âge pour entreprendre? Non. Si vous avez un projet et que vous êtes convaincu, allez jusqu'au bout. Mais le seul frein, c'est parce qu'on est femme. Et au-delà de ça, ça reste un pouvoir quand même, parce qu'on est femme. Donc c'est ça, l'équilibre.
Donc c'est pas un handicap en soi.
Si on le considère comme un handicap, il sera un handicap. Si on dépasse ça, il devient une force. Et je pense que la femme, c'est... Chez nous, on dit, il y a un petit adage qui dit chez nous... En créole, femme c'est châtaigne. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez le châtaignier, lorsque le fruit tombe, il repousse. Et c'est la réalité de la femme. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le temps, on arrive toujours à puiser dans la terre pour remonter et continuer à avancer.
Et je vais plus loin, on dit, femme c'est potomitan. Potomitan, ça veut dire c'est le pilier de la maison, même s'il y a un homme.
Non, mais c'est un beau dicton.
Oui.
mais bien sûr.
Et sans ce poteau, ouais. Si on le coupe, la maison s'effondre. Voilà. Donc voici la force de la femme.
Oui, donc moi je voulais savoir s'il y avait des champs de compétences ou des domaines qui étaient beaucoup plus demandés, voire plus investis par les femmes. Et si oui, lesquels?
Oui, tout ce qui est le domaine tertiaire, je ne sais pas pourquoi on voit toujours une femme secrétaire, jamais un homme. C'est pareil, aide-soignant, on voit souvent des femmes ou sages-femmes, maintenant il y a des sages-hommes. Ou encore tout ce qui est esthétique, c'est plus femme. Mais moi je ne veux pas m'arrêter là, je ne peux pas m'arrêter là à dire qu'il y a... métier spécifique, femme, métier spécifique, homme. Comment ?
Excusez-moi, Odile, ce n'était pas ma question. C'était juste, je voulais savoir, dans ce que vous avez fait, vous, en termes d'accompagnement, etc., quels étaient les domaines qui étaient plus demandés par les femmes ou plus investis par les femmes ?
Tout ce qui est tertiaire.
Tout ce qui est tertiaire.
Tertiaire, par exemple.
Merci.
Alors,
ouais.
Me concernant, moi je parle de mon expertise en Martinique, il n'y a pas forcément un domaine de prédilection. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut avoir une expérience en comptabilité ne va pas forcément créer dans le secteur de comptabilité, je prends cet exemple-là, elle peut tout de suite dire que là, j'ai mon expertise en comptabilité, mais j'ai envie de faire autre chose. Je veux faire traiteur. Parce que ce sont des trans... Je reviens toujours à cette réalité, transfert de compétences. Aujourd'hui, moi aussi, si je suis dans une logique entrepreneuriale, ce sera sur la transformation agroalimentaire parce que j'ai un projet avec mes enfants, avec ma fille. Donc du coup, il n'y a pas de secteur bien déterminé. Je ne peux pas dire que la femme crée plus dans l'esthétique. J'ai des femmes qui ont créé dans les transports de personnes en situation de handicap. J'ai des femmes taxis. Donc, il n'y a pas forcément de domaine.
Il n'y en a pas, mais elle veut des statistiques, si je comprends bien.
Non, pas des statistiques.
Parce que, la question c'était, est-ce que, voilà, donc, si on ne parle pas de statistiques, ben, la femme peut être partout.
C'est dans votre expérience, bien sûr, que la femme peut être. Alors, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui en 2023. Mais moi, je voulais. De votre expérience, de votre place, parce que vous avez une grande expérience en termes de soutien, d'accompagnement et de création d'entreprises, etc., par les femmes, quels étaient les champs investis ? J'ai eu la réponse par Dominique, merci beaucoup, mais c'était ça ma question, parce que voilà. Merci beaucoup, j'ai pas besoin d'explication. Voilà.
Parfait, on a répondu à la question, c'est parfait.
Bon, passez.
Moins d'être dans l'agressivité, hein.
Passe par celui-là la parole. Calmement. Madame, calmement. On va rester courtois. Juste reformuler.
C'est pas une question. Je disais que ce que disait Odile,
ouais.
De par l'expérience qu'elle avait dans son entreprise, dans l'aide à l'entrepreneuriat qu'elle faisait,
ouais.
Correspondait tout à fait. Aux statistiques, y compris de nos sociétés.
D'accord.
Voilà, que les représentations qui étaient faites pour les femmes, y compris au niveau des micro-entreprises et des prêts bancaires, étaient lorsqu'elles s'inséraient dans le service,
d'accord.
Dans le care, ce qu'on appelle le care, de manière d'accord. globale, et qu'il y a toujours des exceptions. Donc je trouvais que ce qu'Odile disait était vraiment correspondait, y compris à ce qui se passe dans toute la société française.
D'accord.
Voilà, le care, c'est pour les femmes. Mmh. Et là, y compris les micro-entreprises et au niveau des prêts bancaires, on vous prête plus facilement que si vous allez sur des secteurs qui ne sont pas identifiés, sauf études dans des grandes écoles de commerce et autres, pour les femmes.
D'accord.
Voilà, c'était mon petit champ d'expertise par rapport à ce que disait Odile.
Okay.
Et je trouvais que sa réponse allait tout à fait dans ce sens. Là, on peut avoir, nous, des murs qui nous limitent ou qui nous auto-limitent, mais il ne faut pas oublier que les représentations que l'on a de nous-mêmes sont celles aussi qui nous sont transmises et sont celles que la société nous permet ou pas d'exercer avec plus ou moins de... Mais il y a toujours un cas qui échappe à cette logique.
Mmh.
Mais je pense que pour déculpabiliser les femmes et ne pas leur dire « si tu veux, tu peux », il faut les resituer dans la réalité qui est celle dans laquelle elles vivent et pas dans celle de l'exception.
D'accord.
Voilà, et mais l'exception existe. Hein.
Merci de votre contribution.
Très pertinente.
Voilà. Est-ce que quelqu'un dans la salle...
Oui, moi j'ai une question.
Ah ben tiens, vas-y.
Alors, pour les femmes en particulier, mais de manière générale, depuis le Covid, c'est très compliqué de créer une entreprise, parce que le contexte est beaucoup moins simple. Néanmoins, avec tout le développement qu'il y a, notamment avec l'international et l'Afrique, je pense notamment au Rwanda, où il y a toute cette dynamique féminine qui se fait, est-ce que vous pensez que justement la dynamique aujourd'hui entrepreneuriale a peut-être plus intérêt à essayer de s'ouvrir sur l'international ou être dans ces échanges-là, à l'époque du tout numérique aussi, des visios, d'Internet, donc c'est plus facile d'échanger sur un projet à travers un écran, au-delà du local où ce n'est pas forcément simple.
D'accord. C'est qui veut répondre en premier ? Vas-y.
Alors moi, je vais parler de ma posture. Je pense qu'à un certain moment, trop de numérique tue le numérique. Il faut oublier, on a complètement oublié cette dimension de l'être humain, l'humain. qui a cette dimension internationale, oui. Mais moi, en tant que femme entrepreneur, je reste dans une logique sociale, d'innovation sociale, et j'ai besoin de ce lien. C'est-à-dire que si je développe une relation à l'international, il faut qu'il y ait cette proximité. Et quel type de proximité ? Ça, c'est ma posture.
Tout à fait. Parce que dans ce qu'il disait, il disait qu'effectivement, le contexte Covid a fait qu'il y a peut-être eu moins de création. Et puis, ça a aussi favorisé le numérique, bien entendu. Le travail à domicile, etc.
Donc, mais je suis d'accord. Hein, à un certain moment, on a besoin du numérique. Il y a eu une situation qui a été créée par le Covid, mais trop. C'est-à-dire que tout le monde est passé, oui, Uber Eats, on commande, etc. Mais on a perdu cette proximité. On a perdu ce côté humain. On laisse trop de place à la machine, on laisse trop de place à la dématérialisation, on laisse trop de place... Pour moi, on oublie dans cette dynamique qui a été créée par le Covid et qui était voulue, là on va rentrer dans d'autres dimensions, qui a été réfléchie. Moi, ça me dérange. Mais ça, c'est ma posture de... C'est mon histoire, c'est dû à mon histoire.
Moi, c'est contraire.
Bon, vas-y, dis-nous comment.
Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle vient de dire. Mais en fait, cette Covid a permis de transformer les choses. Effectivement, il y a la distance. Mais le fait de ça, il a fallu non plus rester dans un rayonnement, il fallait aller plus loin. Donc, du coup, il y a eu des développements de situations, on va dire, de l'entrepreneuriat, en fait. Ça s'est beaucoup développé, mais avec tout ce qui est numérique à distance. Après, pour répondre à ta question, donc ça a développé les choses, honnêtement, sur le numérique. Après, pour dire, personnellement, j'en suis ravie. Je vais dire pourquoi. Mon activité qui faisait qu'il fallait que j'aille à Paris, au ministère ou autre. Ça fait bien longtemps que je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez que je me déplace, que je paie 600 euros pour aller à une réunion alors qu'on peut le faire par webcam. Maintenant, c'est Teams, mais avant, c'était Skype. Donc, j'ai envie de dire, ben, ça a créé autre chose. Et ça a fait de l'économie sur autre chose. Ce qui veut dire que cet argent-là, je peux effectivement l'investir chez un enfant, comme je disais, pour la création en Afrique, qui a pu effectivement développer le côté portable. Il a ouvert son entreprise, etc. Donc ça a développé d'autres choses, en fait. La société a changé, en fait. Après, c'est de dire, OK, j'accepte cette société qui change, tout en gardant un peu d'humain. Mais ça, c'est libre à chacun.
Et c'est là que ça me dérange, le un peu d'humain. Moi, je suis pour garder l'humain.
D'accord.
Après, elle vient de créer après Covid. Donc, ouais.
Toi, c'est après Covid ou c'est pendant le Covid ?
Non, elle, c'est pas. C'est la vague Covid.
Covid, encore mieux.
Justement, la question que je voulais poser, je pense que c'était à Séraphine, pour expliquer, puisqu'on vient de parler du numérique, c'est vrai que le Covid, ça a développé des choses extraordinaires, y compris la solitude, hein ? Et des destructions psychiques. Hein. Je suis psychothérapeute, donc voilà. Et je voulais demander justement à Séraphine qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et qu'est-ce qu'elle a constaté dans son activité où on revient sur notre corps, parce que qu'on le veuille ou pas, on n'a pas qu'une tête, hein, on a un corps. Et qu'est-ce que ça a pu, comment ça a pu influer sur ta pratique, sur ce que tu as pu constater chez les personnes que tu accompagnes dans ton activité, etc., etc. Qu'est-ce que tu as vu comme influence dans tout ça ?
Avant de répondre, je vais rajouter la même chose. Est-ce que le Covid a vraiment impacté ou pas ? Est-ce que ça a été... Est-ce parce que toi, tu allais voir les gens à domicile ou ils venaient te voir ? Est-ce que parce que dans cette période, il fallait garder la distance ? Est-ce que toi, comment tu as pu gérer cette période-là aussi ?
Par Skype.
Non, l'esthétique par Skype.
Vous pouvez organiser des rendez-vous par Skype.
Oui, mais après, les soins.
Ben pour les soins, ça fait bien, hein, je faisais comme ça.
Ouais, vas-y.
Ben, moi, ça n'a rien changé. Et au contraire, après le Covid, j'ai eu beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que malheureusement, certaines personnes ont fermé.
D'accord.
Et moi, vu que j'ai survécu, j'ai récupéré pas mal de clientes.
D'accord.
Et ça n'a pas causé de perte. Pourquoi? Parce que tout le monde était confiné. Tout le monde. Et moi, les clients, quand elles m'appelaient, c'était pour avoir des nouvelles, pour savoir si j'ai tenu le coup.
Ouais.
Et quand le confinement a été levé, ben, j'ai revu encore les gens comme avant, avec encore plus de monde et plus de travail à faire, parce qu'elles avaient besoin d'enlever tous ces poils de depuis quelques
années. Qui est-ce qui a dit qu'il faut une guerre pour reprendre l'économie?
Donc, mais c'est exactement ça. Finalement, toi, ça n'a pas été une révolution destructrice. Plutôt, elle a été créatrice d'activités supplémentaires.
Oui, mais comment vous avez fait pendant le temps du Covid, justement, pour tenir quand d'autres fermaient?
Franchement, moi, du moment où c'est le gouvernement qui oblige, ça ne m'inquiète pas, parce que je sais que derrière, ils vont trouver une solution. Et je n'ai pas voulu prendre le risque de travailler en cachette chez moi, parce que si je me fais signaler là, oui, je serai dans des difficultés. Et donc, oui, je suis restée chez moi, j'ai regardé des séries sur Netflix.
Eh bien, moi, Covid m'a fait atterrir à Montpellier. Parce que la logique que vous avez sur le territoire national n'est pas la même logique que quand on est dans une île. D'accord ?
Donc, c'est quoi la différence ?
La différence, c'est que vous avez, quand vous êtes confiné, vous avez vite fait le tour de l'île et on vous empêche de sortir. Et lorsque vous êtes l'approvisionnement se fait sans problème sur le territoire national. Mais sachez que nous sommes approvisionnés via le bateau. Donc du coup, lorsqu'on n'a plus de réalité ni économique ni sociale, vous dites, bon, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous subissez ou vous agissez? Eh bien, moi, j'ai décidé d'agir. Et justement, il y avait une brèche qui me permettait de partir, je suis partie.
Non, pas en bateau, quand même.
Pas en bateau, mais j'aurais pu. S'il fallait le prendre en bateau ou à la nage, je serais partie avec mes deux enfants.
Ouais.
Parce que quand on ne peut plus sortir, quand on ne peut plus aller à la mer... D'accord.
C'est un peu compliqué.
Quand on ne peut plus avoir ces petits moments qui puissent permettre de continuer à survivre, vous vous dites, vous faites quoi? Ben justement, c'est la femme qui a ses deux enfants qui se disent, bon ben, j'en ai un qui a 16, un qui a 17, on fait quoi et il faut partir? Qu'est-ce qu'on fait? On subit ou on part? Ben, j'ai pris la décision de partir. Parce qu'il y avait un futur que je devais aussi créer pour mes enfants. Donc, Covid, oui, mais Netflix, oui, mais il faut se battre. Et ne pas tout le temps... Quand on est entrepreneur, on a l'obligation d'agir et de ne pas subir une situation. Donc, j'ai décidé de ne pas subir.
Oh, mais c'est bien. Est-ce que dans la salle, y aurait-il une autre question? Alors, Johnson, est-ce que tu peux te lever, prendre le micro de... Voilà, merci.
Il faut le dire, hein, à 56 ans, d'accord? C'est très, très important, l'âge. Il n'y a pas d'âge pour décider.
Je voudrais déjà dire merci pour les interventions. On a pu mettre les mots sur les termes. C'est ce qui m'a tout d'abord frappé, cette compétence-là. C'est-à-dire, elle a expliqué, je veux, et du coup, paf, très intéressant. Vraiment, chapeau. Et je trouve aussi que dans les différentes interventions, le volet finance n'a pas assez été évoqué. Est-ce que le seul frein, c'est que je suis une femme, je ne peux pas? Est-ce que quelque part... la volonté seule suffit. J'ai la volonté, je veux créer. Est-ce que le volet finance n'a pas une place prépondérante dans la création? Ou alors on se dit, voilà, je veux faire ce que je veux faire. Ben oui, je veux faire, tout le monde veut faire ce qu'il veut faire. Est-ce que ça suffit?
C'est vrai que financièrement, bah... Mis à part être une femme, et c'est déjà compliqué, déjà rien qu'à poser un dossier pour le financement, être une femme, ça revient toujours. C'est pour ça que quand elle a dit le problème, si on peut dire ça, le frein, c'est être une femme. Financièrement, J'ai vu des personnes qui avaient 0 euro. Mais quand je dis 0 euro pour débuter une activité, le montage de dossier, les demandes de prêt, que ça soit la banque ou du privé, après, c'est sur dossier. La problématique, puisqu'on parle de femmes, eh ben, c'est parfois plus compliqué de prêter à une femme qu'à un homme. Je ne vais pas aller au-delà des autres situations, parler des îles. C'est homme ou femme, c'est encore plus compliqué qu'on nous prête de l'argent. Donc le volet financier, effectivement, est important. Je suis d'accord. Mais on peut commencer avec zéro. Tout est une question de est-ce que le dossier passe. Donc ça veut dire, encore une fois, une question de montage. Est-ce qu'on met dans le dossier et comment on présente le dossier. Et cette envie qu'on donne aussi aux banquiers ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les banques qui prêtent. Il y a beaucoup de privés qui prêtent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question là-dessus.
Est-ce que dans l'obstacle financement des projets, quels qu'ils soient, homme ou femme, est-ce qu'il n'y a pas le projet en lui-même qui, pour le banquier, pose problème ?
Le projet, il faut que ça soit réaliste et réalisable.
Oui.
L'autre qui arrive et qui me dit, écoutez, je vais faire un moteur pour... Non, parce que ça a marché. J'allais dire un moteur pour un vélo, mais ça a fonctionné. Donc, ouais. Mais je ne sais pas. Il faut vraiment étudier le projet. Et quand on y va, que ce soit LRDI ou ailleurs, puisque ce sont des organismes qui prêtent financièrement, qui aident à monter, il faut que ce projet soit vraiment fiable. Il faut le transmettre, cette fiabilité. Sinon, on ne prêtera pas, déjà.
Pour répondre à la question, dans la réalité, un projet ne démarre jamais à zéro. Lorsque vous avez décidé d'entreprendre, c'est que vous avez déjà testé votre produit. Vous savez déjà s'il fonctionne ou pas.
Business plan.
Quel que soit, ça peut être le cercle réduit, c'est-à-dire que la copine, c'est comme ça qu'elle a démarré. J'ai démarré avec une personne, deux, trois, etc. Elle a vu que le produit fonctionne. Là, dans le financement, c'est qu'elle peut se projeter. J'ai vu qu'il y a un produit qui fonctionne, il y a une prestation qui fonctionne, mais pour aller plus loin, j'ai besoin de développer, j'ai besoin d'une aide. L'aide financière n'est pas que privée, elle est également publique, c'est-à-dire les subventions, donc montage de dossiers. Mais moi, je dis toujours à un porteur de projet de tester, de tester. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Je peux tester mon produit, faire des factures. J'ai le droit aussi d'émettre des factures, même si je suis payée, immatriculée. Là, ce sont des bons plans, parce qu'on a le droit, sous quelle que soit la forme, il y a des pépinières qui me permettent de démarrer mon activité, sans pour autant avoir immatriculé. Et c'est à partir de ça que je peux dire que le produit fonctionne et que je vais chercher du financement. Mais j'ai déjà fait rentrer une trésorerie. Je peux au moins dire, lorsque j'arrive devant un cabinet ou une personne qui accompagne, eh ben, ce mois-ci, je suis capable de faire 100, parce que je travaille, je suis capable de faire tant de prestations, tant de chiffres d'affaires. Et c'est à partir de ça qu'on peut dire, oui, si en 2 jours, tu as, c'est ce qu'elle a dit, c'est exactement son histoire. 2 jours, j'ai pu faire tant de chiffres d'affaires, ça ne me suffisait pas, il me fallait plus. Donc j'ai pris du temps pour moi. Le temps aussi, c'est de l'argent. Donc j'ai pris du temps pour moi pour. Et c'est comme ça qu'elle a pu démarrer et développer son activité.
C'est une bonne expérience.
Et du coup, là, lorsqu'elle va dire « j'ai besoin de former », elle a dit, elle a un autre projet dans la continuité, il faut qu'elle monte en puissance. Donc il faut qu'elle aille chercher les financeurs. Mais il y a déjà un passif. Et la banque ou l'emprunteur va se reposer sur ce passif-là pour dire oui, il y a une réalité.
Okay. Bon. Séraphine pourrait nous dire un peu dans ton projet. Attends. Non, là, elle a un micro.
Séraphine, parle. Ce qu'on vient de dire, on vient de parler de toi. Il y a 2 personnes.
Comment ?
Bon, j'aimerais bien savoir. On a parlé de
ton expérience. Ouais. Ton expérience en termes, est-ce que tu as des difficultés pour avoir l'argent, pour qu'on te prête, pour que les banques t'accompagnent? Comment ça a démarré? Ça aussi, c'est ce volet.
Alors, Bon, pour moi, c'est un peu particulier.
Vas-y. Pourquoi, t'as gagné au loto?
Ouais. Non. C'est un peu particulier parce que quand je me suis installée, que j'ai voulu travailler toute la semaine, je ne pouvais pas avoir de prêt au niveau des banques. Ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que déjà, bon, c'est au début quand l'auto-entreprise a été lancée, donc je me suis lancée dessus et les banques, ils n'aiment pas du tout ça. J'ai travaillé, j'ai fait du domicile pendant 5 ans, je n'avais même pas de voiture, je dépendais des trams.
Est-ce que tu sais qu'il y a un microcrédit qui existe?
Et l'ACRE?
Tu as le microcrédit ADIE justement qui existe pour aider justement les micro-projets.
Ok. Bon, donc là,
dans ton
pas,
cas, tu as fait quoi?
Bon, je savais pas, moi j'avais fait une demande pour l'ACRE. Je croyais qu'il finançait, mais non, au final, tu es exonéré de charges pendant quelques mois. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas les moyens. Je voulais pas arrêter mon métier. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. J'étais juste fatiguée parce que voilà, j'avais beaucoup de monde. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait?
Autofinancier.
Même pas. J'ai juste pris un risque. Je suis allée voir le banquier. Je lui ai dit, voilà, il y a ce local qui est une ruine. Il va bientôt être en vente aux enchères. Donc, j'ai juste apporté mon agenda de mon début jusqu'à mes 5 ans. J'ai apporté mon agenda. Je lui ai expliqué mes débuts. Je suis partie, j'ai laissé ça sur son bureau. Je lui ai dit, je vous laisse le choix. Il m'a rappelé, il m'a dit, je vous prête et vous l'achetez du local.
Voilà, ça a été une belle histoire. C'est une belle histoire.
Génial. Il
faisait son business plan.
Voilà. OK. Alors, dans la salle, il y avait des gens qui voulaient intervenir. Lui d'abord, puis après le doyen Domboué. Tu as le micro, vas-y.
J'essaie un peu de suivre. Bon, moi, je suis aussi entrepreneur. Bon, c'est bon, vous m'entendez ou pas?
Ouais, un peu plus fort, ouais.
Pour moi, il y a effectivement, on parlait des freins et de un petit peu les étapes, les différentes étapes. Donc, on est à l'étape du prix. Il y a une troisième étape aussi. Pour vous, Séraphine, visiblement, le moyen de communication, c'est fait par le bouche à oreille. Mais il y a aussi la partie marketing qui est très, très importante quand on est entrepreneur. C'est comment on met en place un marketing qui soit opérationnel et une stratégie. Donc, si on est dans la vente ou dans le service, qu'est-ce qu'on met en place? Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place malgré le fait qu'il y ait, que vous ayez eu ce bouche à oreille? Comment est-ce que vous avez fait pour continuer et perdurer dans cette activité? Je ne sais pas si ma question est claire. Mais
Oui, c'est très clair.
Alors, si j'ai bien compris, vous voulez savoir comment j'ai fait pour que ça continue?
Ce modo, c'est un peu ça.
Quels sont les outils? Parce que tout à l'heure, on parlait aussi du numérique. Ne pas délaisser l'humain, mais du coup, faire en sorte que le numérique devienne un outil et ne remplace pas l'humain. Donc, est-ce que vous avez mis en place, par exemple, des outils numériques, par exemple, des agendas pour prendre des rendez-vous, des choses comme ça? Ou est-ce que vous êtes resté que, justement, avec le téléphone, bouche à oreille et,
Rien du tout. Je suis restée comme au tout début. Et là, franchement, votre question, je pense que c'est l'une de mes clientes qui pourra plus vous répondre parce que moi-même, je ne comprends plus rien.
Et c'est là qu'il faudra aller chercher les compétences. Donc, recruter.
Et en sortant, vous aurez simplement comme ça. Ah, c'est sur papier.
Voilà. Bonjour, mesdames. Je vous trouve formidable. Et je vois que vous êtes assez, on parlait en tant que femme, et sans parler jamais d'une personne qui pourrait accompagner vos projets, qui serait votre compagnon. Parce qu'en général, une femme, derrière une femme, peut se cacher, en tout cas un homme. Et j'étais contente de voir que Séraphine disait qu'elle avait financé son projet. J'avais peur qu'à un moment donné, elle dise, bah oui, parce que mon mari m'a donné. Donc je voulais dire que, est-ce que justement, être en couple avec quelqu'un, marié, n'est pas un frein pour la, la création d'entreprise pour une femme, parce que je pense que vous êtes toutes les trois assez indépendantes. Quoi. Je ne sais pas s'il y a homme ou pas homme derrière et qui aide ou qui aide pas, parce que bon, ils peuvent aussi être un moteur. Mais j'ai noté, bon, aujourd'hui c'est moins vrai, mais la génération précédente, les femmes étaient énormément freinées par les hommes qui ne les encourageaient pas du tout à entreprendre. Et je pense que bon, ben, est-ce que aujourd'hui ça peut être le cas encore d'un frein, quoi.
Tu vas répondre en premier, ensuite les deux autres vont suivre.
Alors, moi, j'ai envie de dire, j'ai la chance d'être mariée.
Ah.
Oui.
C'est bien.
Bon, il est très bien, on ne va pas lui dire.
Oui, oui, oui.
Mais il est très, très bien, il faut le dire. Je vais vous dire pourquoi il est très bien, parce qu'il a pris 2 ans et demi de congé parental pour que moi, je puisse travailler.
Ah, ça, c'est super.
Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, il y a toujours quand même un homme. Mm-hmm. Derrière un homme, par contre, il y a toujours 4 femmes. Hein, mais bon, mais il y a toujours un homme.
Comment ça?
Voilà. Donc, moi, effectivement, mon mari, il est à plus que soutenir. Vraiment. Mais vraiment plus. Je vous dis, il a pris 2 ans et demi de congé parental pour garder les deux. Quoi. Donc, non. Ils sont là. Heureusement, ils sont là.
Donc, de la gestion justement de la famille, parce que madame, vous disiez que c'était surtout les femmes qui avaient à s'occuper de ça, mais aux femmes aussi d'amener les hommes à s'en occuper, parce que souvent elles prennent ça en charge complètement et finalement bon ben elles font elles-mêmes leur propre peut-être pas malheur, parce que c'est toujours un bonheur d'élever les enfants sûrement, mais
tout dépend de l'homme qu'on a.
Est-ce que tu as envie de réagir par rapport à ça?
Vous aviez demandé des chiffres. En général, la majorité des femmes qui entreprennent, c'est des femmes solo, monoparentales. Donc, qui doivent. Oui, il y a des exceptions, mais en général, la femme qui décide d'entreprendre ou qui est en auto-entrepreneuriat, je ne pense pas que derrière il y a un homme. Il y a des enfants à gérer qui accompagne, oui, parce que la force aussi de ces femmes-là, c'est parce qu'il y a des enfants qui leur donnent l'énergie pour avancer. Mais par contre, quand il y a ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que s'il y a le mari qui accompagne, tant mieux. Mais aussi, il y a aussi des maris qui comprennent pas, et des fois c'est source de tension. Et il y a des gens qui se séparent parce que la femme, elle a créé. C'est elle. C'est son histoire. Exactement elle. Je savais. Je savais.
Allez, vas-y. Dis-nous un peu, madame Rodrigo, ton histoire. Est-ce que le compagnon a été là, a été un frein, a été une aide?
Je vais être brève. Entre l'entreprise et le mariage, fallait choisir. Et je ne peux pas choisir entre les deux. Je n'avais pas de choix à faire. Donc, j'ai juste imposé.
Ouais, ben c'est bon, ça s'entend.
J'en ai fait autant, hein, mais il est resté.
Mais il était compréhensible, celui-là. Est-ce que, voilà, dans la salle, il y a M. Domboué qui voudrait...
Je voulais remercier les intervenantes pour leur message d'optimisme, parce que ça, franchement, ça fait du bien d'entendre ça. Par les temps qui courent, et j'espère que au-delà de cette assemblée, vous le diffuserez largement auprès de vos jeunes sœurs et autres pour que, ben voilà, les femmes continuent à aller de l'avant et donnent l'exemple. Alors moi, j'ai une question à poser à Dominique. J'ai un vieux rêveur panafricaniste. Alors, elle a dit des choses par rapport à des projets qu'elle avait par rapport à l'Afrique. Enfin, voilà, et ça m'intéresse. Si elle peut en dire plus. Merci.
Pour la petite histoire, c'est René.
Irénée.
Irénée, on a participé à une même aventure lorsqu'on était figurant dans une série. Je ferme la parenthèse.
L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+. Thank you.